Early in the morning, before the sun rose, when the first bird sang, even while everyone was still asleep.
Morning. On that morning.
When the sun comes out.
This morning, baby.
Cock-a-doodle-doo. I hear the rooster crowing.
Now you must wake up.
Now every morning when I wake up,
I woke up this morning with
the kiss of the morning.
Got up 7:30 every morning, had the same breakfast.
Réveillez-moi à 8 heures demain matin.
Good morning.
Good morning.
Good morning.
Riding a bike made of bacon and eggs.
In the morning.
In the morning.
Why should the sun replace the moonlight?
Has this ever happened to any of you, or will it happen to any of you, on the morning after the night before?
You are listening to The Morning After on CKUT 90.3 on the FM dial.
Bienvenue sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Vous écoutez Le Lendemain de la Veille et on a avec nous ce matin Ramon Vitesse avec sa nouvelle chronique spéciale où il a des invités à chaque semaine, presque, et il fait les entrevues un peu plus longue forme. Alors on est très content d'avoir ça. Bon matin et bienvenue sur les ondes de CKUT tous les deux.
Bonjour Iris.
Allô.
Et bienvenue à CKUT avec tes bandes dessinées. T'es une autrice de bandes dessinées québécoises qui a quand même toute une carte de route. T'as quand même quoi? T'as pas loin d'une vingtaine d'albums.
Ouais,
c'est ça, à peu près, ouais. C'est ça, puis t'as commencé. Ben, en fait, t'es même allée à l'école en bandes dessinées. C'est quand même pas piqué de verre. La plupart des anciens auteurs disaient, ben moi, je dessinais dans le marbre de mes cahiers d'école. Tu es allé aussi apprendre au bac en bande dessinée à l'Université du Québec en Outaouais. Peut-être qu'on peut commencer par ça, voir qu'est-ce qui t'a amené là. Est-ce que tu faisais des marges de tes cahiers scolaires avant?
Ah oui, définitivement. Là, je dessinais même des bandes dessinées avec mes amis au secondaire, au primaire. Ça fait vraiment longtemps que ça m'intéresse, puis j'en lis. Ben, tu sais, il y a plein de monde qui font ça, puis après, ils ne continuent pas. Là. Puis, quand j'ai fini mon secondaire, je suis allée faire un deck en arbre. Et puis après, j'avais envie de faire de l'animation. Puis, le seul cours d'animation qui se donnait en français, c'était genre au collège Algonquin. Puis moi, je suis de l'habitant de Taouille, j'ai une Taouille. Puis, c'était vraiment loin, le stuff, ça me tente pas. Fait que j'ai vu qu'il y avait le bac en bébé qui existait, que ça faisait pas longtemps qu'il existait, genre 5 ans. Je me suis dit, tiens, il y a un cours d'animation dans tout le cursus du bac en bande dessinée, je vais aller faire ça.
Oh là là!
Puis, finalement, tu sais, maintenant, je sais qu'il y a pas d'animation, puis je vois, je connais tout le monde qui travaille là-dedans, tout ça, puis j'aurais tellement détesté ça, là, c'est comme encore plus long que la bande dessinée.
Pendant ton bac en BD, est-ce que tu as eu des rencontres d'autrices, d'auteurs ou de professeurs qui t'ont marqué, qui ont été déterminantes pour toi? Parce que la bande dessinée, c'est quand même un acte solitaire souvent, mais toi, tu as quand même, on va le voir au cours de l'interview, tu as quand même multiplié les collaborations. T'es sorti de ta bulle, si on peut dire.
Oui. Pendant que tous mes profs du bac m'ont marqué, là, on avait vraiment des profs super, puis je n'entendais pas super bien avec mes collègues étudiants, là, comme c'était une cohorte, parce que bon, j'avais quelques amis, mais on dirait que ça cliquait pas, puis c'est comme genre à dire, mais on dirait que ça cliquait plus avec mes profs, là. En tout cas, on dirait, à l'université, je pense que c'est moins pire de dire ça que quand t'es genre au secondaire, puis que t'es plus amie avec les profs qu'avec les élèves, là.
Oui.
Puis, Sylvain Lamy qui est le directeur du programme, Mario Moulac, une personne super. À un moment donné, aussi, il y a Jean-Louis Tripp, qui est un auteur français, qui est venu enseigner au bac. Puis lui, il m'a marqué aussi beaucoup parce que, en fait, je pense qu'il nous a tous marqués. Je pense que ça a été dans ses cours où j'ai le plus appris. Mais il y a aussi un moment de respiration quand j'en ai parlé parce que l'enseignement en France est très différent de l'enseignement au Québec. Là. C'est beaucoup plus hiérarchique, ouais, plus rigide. C'est plus exigeant aussi. Là, en France, les gens, quand ils vont faire des études, souvent, ils vont faire que ça puis ils vont pas travailler en même temps. Là.
Ouais.
Puis là, Jean-Louis arrivait à l'UQO où est-ce que nous, on avait des jobs à côté pour payer notre loyer puis nos études puis tout ça. Puis ils nous demandaient une quantité de travaux comme impossible à accomplir pour nous. Il a fallu un peu qu'on lui dise comme « Oui, c'est pas de même valeur ici, puis on veut bien, mais on peut pas. » Mais il a été super, super exigeant avec nous. Mais ce qui a fait que je pense que on a beaucoup, beaucoup appris. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris pour cette raison-là. C'était vraiment un excellent prof.
Puis, est-ce que tu dirais plutôt que c'est rapidement sur le tas, en faisant de la bande dessinée, que tu as eu des rencontres déterminantes? Je pense peut-être à Jimmy Beaulieu, parce que tu avais fait une des premières publications professionnelles dans Méreling, que ça oui. s'intitule chez Mécanique Générale. D'ailleurs, dans Méreling, je ne sais pas s'il y a une intention derrière ça, mais il y a aussi peut-être un écho à Julie Doucette qui avait parlé de ses menstruations et que ça a fait un peu comme écho à travers la bande dessinée sur le plan international, mm-hmm. l'aspect du underground. Est-ce que toi, tu te reconnais là-dedans? Puis en tout cas, ça fait 6 questions en même temps, mais lâche-toi là!
Ben, pour répondre au début de ta question, à cette époque-là, genre en 2005, en tout cas, au début des années 2000, là, c'était beaucoup l'époque des blogs de bande dessinée. Puis comme je disais tout à l'heure, moi j'habitais en Outaouais à ce moment-là, fait que j'étais loin de la sphère de bande dessinée montréalaise, tout ça. Mais on était beaucoup en contact entre auteurs par les blogs BD. C'est beaucoup comme ça, moi en tout cas, que je me suis fait un réseau puis que j'ai rencontré, ou en tout cas virtuellement, des auteurs comme Diane, Pascal Gérard, on suivait le travail les uns des autres tous les blancs. Puis c'est comme ça que Jimmy est venu à découvrir mon travail, c'est-à-dire que le livre dont tu parles, dans les lignes, c'était pré-publié sur un blog, c'est sur mon blog avant. Puis, c'est comme ça que Jimmy m'a contacté puis que ce premier livre-là est né. Fait que c'était pas vraiment des rencontres en personne à cette époque-là, parce que j'étais loin de Montréal, puis ça, puis ils allaient pas trop dans les événements, puis il n'y avait comme pas trop d'événements non plus à ce moment-là, parce qu'il y avait le Festival de début de Québec. Il n'y en avait pas à Montréal, où il y en a eu, après il y en a plus.
Oui, oui, oui.
Fait que c'était beaucoup des blogs à cette époque-là. Puis pour répondre à ta deuxième question, en tout cas, tu évoquais Justice, qui était évidemment une grande source d'inspiration pour moi. Je l'admire beaucoup toujours en ce moment. Mais à l'époque, quand j'ai découvert son travail, j'ai vraiment pas mis quoi.
Mais en tout cas, ce titre-là, d'une certaine façon aussi, c'est un hommage, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, il y a comme un écho, puis il y a comme une sororité, peut-être, dans des thématiques. Il y a quelque chose, en tout cas, puis bien sûr, l'élément autobiographique, en tout cas, qui est quand même quelque chose qui distingue ta production, mais pas seulement. Il y a aussi l'autofiction, il y a aussi le tutoyer le réel, entre autres,
ouais.
Versions. Il y a la musique, d'ailleurs, peut-être même qu'on peut écouter une musique maintenant pour se lancer.
Ben, certain.
On pourrait y aller, on pourrait faire des exercices d'échauffement et écouter une chanson qui s'appelle « Trophée de gymnastique » qui est signée Coup coupé, qui est un musicien absolument galvanisant, qui s'appelle...
Oui, Jacques Bertrand Junior, ben en fait, le Coup coupé, c'est son groupe, mais Jacques Bertrand Junior qui écrit les paroles, le Coup coupé, puis qui chante, puis tout ça, qui joue la guitare aussi. Qui est vraiment, là, je veux le dire, un poète extraordinaire, c'est un des poètes préférés.
Un véritable phénomène de la chanson québécoise déjantée et décomplexée. Il y a un bédéiste qui joue de la batterie à l'occasion avec lui, en tout cas à l'époque,
Simon Bossé.
Donc, c'est ça, c'est un vraiment pour des gens qui ne connaîtraient pas ces productions musicales, ça vaut la peine. Et bon, mais écoutons sans
plus. Mais même, mais je vais juste dire production musicale, mais aussi quand je disais que c'est un poète, il y a un livre de Jacques Bertrand Junior qui regroupe ses paroles de chansons, qui est de la poésie dans le fond, qui s'appelle Le micro étudiant dangereux, et puis Gilles Cravant, je conseille ça à tout le monde.
Oh,
mais si on peut aller écouter la toune.
Je ne savais pas.
Oui.
Wow, j'avais appris quelque chose et je vais le chercher. Alors, on écoute sans plus tarder Coucoupé, la pièce Trophée de gymnastique sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Je rappelle que nous sommes en compagnie d'Iris pour une interview sur sa production bande dessinée. Nous voilà repartis, Iris. C'était la pièce Coucoupé. Et j'évoquais il y a un instant ton intérêt pour la musique qui se retrouve dans plusieurs de tes productions bande dessinée. On peut penser à Le Stitcha qui fait référence peut-être à Le Stitcha que tu as travaillé avec Viane d'abord sous forme de blog, un médium que tu as utilisé quand même pas mal. Et ça a été publié en papier chez l'éditeur français Delcourt. Oui. Peut-être qu'on peut faire un petit détour par là. J'imagine que tu aimerais placer un mot, puis après...
Non, mais en fait, ça n'a vraiment pas rapport avec ce que je me suis demandé, mais c'est vraiment un hasard. C'est plus vraiment à cause du chat dans le livre. Mais par contre, ça a rapport avec la musique, parce que le personnage, un des personnages principaux, Jasmin, il est musicien. C'est un claviériste, il joue avec son band. Ça fait que ça a un peu rapport avec la musique. Mais encore là aussi, ça s'appelle le chat, mais ça parle pas tant de chat. Là. C'est l'histoire de deux gars qui ont la garde partagée d'un gros chat dégueulasse qui pue, qui a des pellicules et qui vomit tout le temps. Puis, ils partagent la garde de ce chat-là, mais dans le fond, l'histoire, c'est plus la vie de ces deux vingtenaires-là, un qui est musicien, l'autre qui est programmeur, puis qui sont célibataires, puis tout ça, qui vivent en appart en colocation. Puis c'est un peu leur quotidien.
T'aimes quand même beaucoup les histoires de mœurs, non?
De quoi?
Tu as écrit quand même, tu as travaillé beaucoup d'histoires de mœurs, des histoires, les rapports humains.
Oui, c'est pas mal, je dirais que c'est mon thème principal, là, parce que peu importe le genre de bande dessinée que je fais, c'est comment tu t'en fous qui est au centre de l'histoire, des rapports entre les gens.
T'as travaillé aussi, ben, je parlais de collaboration, il y a celle-là avec Viane qui est quand même assez majeure. T'en as eu une aussi, l'intégrale avec Caton, mais aussi tu travailles aussi en livre jeunesse. T'as fait des livres avec Élise Gravel, qui est une grosse pointure au niveau jeunesse au Québec, avec le
professeur Zouf, les leçons du professeur Zouf, oui. Mais aussi avec Caton, ce qu'on a fait, ça s'appelle la liste des choses qui existent.
Et ça, c'est en cinéma d'animation à l'ONF, si je me trompe.
Oui, c'est ça. En fait, ça a été publié en livre à la pastèque. Puis l'année passée, on a fait l'adaptation en capsule animée, 13 capsules animées, qui fait par la Pastèque et les productions de la Pastèque, produits par la Pastèque et l'ONF et en collaboration avec Télé-Québec.
OK. C'est très bien. En tout cas, c'est très dynamique. C'est une facture vraiment moderne et c'est punché comme truc. Tu as eu beaucoup d'implications dans la réalisation de l'animation. Comment ça s'est fait, ce truc-là?
Oui, vraiment beaucoup. Oui, j'ai pas mal impliqué.
Ah oui.
J'avais même plusieurs chapeaux dans un statut compliqué. En fait, j'étais co-réalisatrice avec Caton et Francis Papillon, qui était aussi l'animateur. Donc, on avait un peu tous plusieurs rôles.
Oui.
Et donc, j'étais co-réalisatrice, puis j'étais aussi scénariste. Fait que, il reste plus grand rôle que j'ai pas, fait. Évidemment, on avait quelqu'un qui faisait le son, la musique avec nous, puis il y avait les producteurs, tout ça. Mais la réalisation, je me suis rendu compte que c'est comme beaucoup. Tu sais, tu prends les décisions pas mal sur toutes.
Et est-ce que ça doit donner le goût de récidiver éventuellement? Est-ce que tu as des projets sur lesquels tu planches actuellement en animation?
Pas pour le moment, mais oui, ce que j'ai vraiment aimé, c'est le côté scénarisation. J'ai adoré ça. Le côté réalisation, j'ai trouvé ça super intéressant. Surtout le son, là, j'ai vraiment adoré faire le son, travailler sur les sons. Mais je pense que c'était comme too much pour moi. Là. Okay. Moi, je ne le ferais pas dans le futur, mais c'est vraiment plus la scénarisation qui m'a intéressée. Puis, mais dans le fond, c'est normal parce que je suis scénariste. Là. Je fais de la bande dessinée, puis j'écris. Là. C'est comme c'est une partie de mon métier. Puis j'ai vraiment trouvé ça trippant, scénariser pour un dessin animé comme ça, puis j'aimerais ça répéter la chose, ça, c'est sûr.
Pour peut-être boucler un peu notre regard en arrière avant de passer à tes productions toutes récentes, c'est ça, j'aimerais, si tu veux dire quelques mots sur Justine, qui a été publié à la Pastèque en 2010, qui pour moi est peut-être un de tes livres les plus achevés et les plus solides. Je ne sais pas ce que tu en penses. Pourtant, c'est un livre qui n'est pas tellement discuté dans ta production, mais moi, je trouve que c'est vraiment un livre vraiment important.
Ben merci. Je ne sais pas que je trouve qu'il n'est pas abouti. C'est juste que pour moi, c'est spécial parce que c'est mon deuxième livre. C'est le livre que j'ai fait après dans mes relignes. Puis dans mes relignes, comme c'était un blog, un truc auto-bio, tu sais, là, j'ai l'impression que Justine, c'était comme. C'était pas mon premier vrai livre, mais c'était ma première fiction. C'était mon projet de fin de bac aussi. Donc, à la fin du bac, en bande dessinée, ils me demandent de faire une bande dessinée. Dans mon temps, c'était genre, il fallait faire 13-14 pages. Fait que j'ai fait un chapitre de cette histoire-là, de Justine. Puis ensuite, je l'ai proposé à la Pastèque. Puis la Pastèque m'a dit, ah oui, si tu veux comme continuer cette histoire-là, on serait intéressé à le publier.
Et puis, c'est ouais, vrai que l'aspect, le personnage, en fait, la personnage est extrêmement bien campé, puis très, je sais pas comment dire, il y a un côté senti, authentique, et puis on retrouve ça peut-être dans une autre de tes productions, Les Autres. Une série de deux albums avec des losers, finalement, de la polyvalente. Et là, peut-être encore, je trouve qu'on a le plus grand écho de Justine quasiment. Mais écoute, je suis toute réserve, là, mais.
Mais non, en fait, je comprends le lien que tu fais, c'est vrai. Hein. Parce que dans Justine, en fait, on découvre une jeune fille de 18 ans, mais tu sais, qui est un peu. Qui n'est pas très dégourdie pour son âge, là, qui est un peu encore innocente, puis tout ça. Puis qui arrive dans une nouvelle ville, qui est Gatineau, en fait, là, mais c'est un Gatineau un peu tristesse, là. C'est que les gens, c'est des gens qui ne se pas trop. Puis donc, elle arrive dans cette ville-là, puis elle emménage avec une coloc qu'elle ne connaît pas, Manon, qui est en chaise roulante, puis qui n'est pas très fine avec elle. Puis, tu sais, quand j'ai fait du film, là, moi, je suis très fan de Daniel Klaus, j'aimais bien trop David Lynch, puis j'aimais les ambiances un peu weird, inquiétante, puis je me disais, je vais essayer de faire ça en BD, mais tu sais, quand tu dis Justine, ça n'a pas du tout l'air de ça.
Oui.
j'ai raté mon coup, mais tu sais, en même temps, c'est le fun qu'on peut-être qu'on ne sente pas les influences que j'avais dans ma tête, parce que dans le fond, je l'ai comme fait à ma sauce plus. Là. Mais tu sais, il y a des bouts de drôles dans Justine aussi, je pense qu'il y a, j'ai fait aucun livre où il n'y a pas des blagues, des trucs drôles, là. Fait que c'est comme un mélange de drôle, weird, une relation entre les gens, quotidien, comme tu sais, un peu tous les thèmes qui reviennent souvent dans mes bandes dessinées.
Ben, peut-être que justement, parlant de weird et tout ça, on pourrait y aller avec une toune en prison maintenant, Marcel Martel, qui se trouve à être le père de René Martel.
Ouais.
J'avoue que je considère avoir une connaissance pas pire du western, mais le personnage trop populaire peut-être avait échappé à mes radars, puis j'ai écouté ça avec beaucoup de plaisir. Fait qu'on va partager ça avec nos auditrices et nos auditeurs dès maintenant sur CKUT 90.3 FM.
Marcel Martel. Il est en prison maintenant. Je lui ai dit dans le poids d'arrêter ses cartes et ses jetés. Il est en prison maintenant. J'avais un ami du nom fond de balle, sans plus grand dépôt, c'était le vol. Il croyait être le plus sage, et pourtant, j'ai appris ce jour dernier qu'il s'était fait enfermer. Je me demande s'il est pour longtemps. Il est en prison maintenant,
il est en prison maintenant,
il est en prison maintenant,
il est en prison maintenant.
Je lui ai dit dans le bois d'arrêter ses cartes et ses jetés. Il est en prison maintenant. Restaurant mardi dernier, celui-là j'ai rencontré. Je croyais lire dans ses yeux la douceur. Elle dépensa tout mon argent, elle m'appela mon chéri, mon grand. J'ai manqué d'argent à la dernière heure. Je suis en prison maintenant,
je suis en prison maintenant,
je suis en prison maintenant,
je suis en prison maintenant.
On m'a dit tant de fois d'être moins volage et plus prudent. Je suis en prison maintenant. En prison maintenant,
je suis en prison maintenant,
je suis en prison maintenant,
je suis en prison maintenant.
On m'a dit dans le bois d'être moins volage et plus prudent. Je suis en prison maintenant.
Et voilà, on est sorti de prison maintenant. On retrouve Iris sur les ondes du 90.3 FM. Iris, peut-être que tu peux en profiter pour sauter sur le surfer sur la musique et nous parler un peu de ton amour de la musique. Bon, tu as fait beaucoup d'affiches, pochettes de CD, entre autres. Tantôt, on entendra certainement mon oncle Serge. Peux-tu nous dire quelques mots là-dessus? En passant notamment par Skip Johnson.
Ah, mon ami Skip. J'ai toujours aimé la musique. Là. Mon père joue de la musique. Il y a eu tout le temps des disques chez nous. J'avais le droit de manipuler les disques à table tournante, même quand j'étais toute petite. Quand j'étais ado, j'en jouais beaucoup, puis je me tenais beaucoup avec les musiciens, tout le monde qui jouait de la musique, qu'on jouait dans le cadre de nos parents, tout ça. Puis eux ont continué, il y en a qui ont des bandes maintenant puis qui tournent, tout ça. Puis ben, moi, j'ai décidé de faire de la bande dessinée parce que c'est un peu dur de faire les deux en même temps.
Est-ce que tu caches une guitare chez toi?
Oui, j'ai deux guitares, j'ai un ukulélé, mais pas souvent, hein, je pratique pas. C'est ça se perd, hein, tu sais, je pratique pas assez souvent. Mais là, je devrais, on est confinés, c'est ça, je devrais faire.
Ça se sent, en tout cas, parce que c'est ça. Oui, continue.
Oui, bien, c'est ça que je parle de tout ça, mais quand je suis déménagée à Montréal en 2017, j'ai commencé à tenir au Cheval Blanc, qui est un bar super cool. Puis, oui, il y a plein de musiciens qui tiennent, plein de gens qui font de la BD qui tiennent aussi. Si mon boss, qu'on mentionnait tout à l'heure, était barman au Cheval Blanc.
Oui, oui.
Puis, en côtoyant tous ces gens-là, ben, je me suis mis à commencer à faire beaucoup d'affiches de spectacles. Et aller voir beaucoup de spectacles, on s'ennuie tellement de ça en ce moment, là, ça me manque vraiment.
Effectivement, la musique live, c'est comme la BD, ça se lit pas sur le numérique, il faut que ce soit papier, c'est un art vraiment palpable, c'est vraiment important de pouvoir ouvrir des pages, revenir en arrière, et puis la musique, l'ambiance, les rencontres et tout et tout.
Mm-hmm.
Il y a des choses, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais en tout cas, la pochette de disque pour mon oncle Serge est vraiment splendide. C'est ton style,
merci.
Mais en même temps, ça suit tellement mon oncle Serge. Il y a quelque chose de rigolo là-dedans. As-tu une anecdote que tu veux nous raconter sur un de tes projets plus liés à la musique?
Peut-être qu'on pourrait parler de Paul.
Allons-y.
Bon.
Mon dernier livre. Bien sûr, ta bande dessinée.
Oui, la série de bande dessinée sur laquelle je travaille en ce moment. Le tome 2 vient sortir en novembre dernier.
C'est un projet, je pense, que j'ai lu en quelque part dans plein de jours depuis que tu as auto-édité en 2017. Tu parlais de folk, entre autres, et tu disais que tu avais initié ce projet-là en 2012 et que c'est quelque chose donc que tu portes depuis longtemps.
Oui, ça fait tout le temps ça. On dirait que je me garoche dans tout le projet en même temps. Là. Puis, comme je racontais dans 26 jours depuis, qui est un fanzine dans lequel je parle de la production folk et du travail que je fais sur folk, c'est que des projets comme ça, on veut vraiment s'investir et être à fond dedans pour bien le faire. Puis c'est difficile des fois de trouver un moment qui est plus que juste une journée par semaine pour s'investir dans un projet. Parce que faut payer le loyer, faut payer la bouffe et tout ça. Fait que je fais pas mal de boulot alimentaire. Puis, c'est ça. Fait que j'attendais tout le temps d'avoir le moment de mettre. À force d'attendre, finalement, on ne sait jamais. Mais j'ai eu la chance de faire.
Folk, oui? Pour la gouverne des gens qui nous écoutent, publié chez La Pastèque, donc deux tomes à ce jour pour trois tomes de prévu. C'est une histoire animalière, donc il y a un côté peut-être Walt Disney, mais un peu plus glauque,
un peu plus
trash, disons-le.
Ouais.
Il s'agit d'une grande débarque, si on peut dire, d'un road movie du pauvre, où il y a de la débrouille, il y a du chapardage, des mensonges, bref... c'est l'être humain dans toute sa bêtise. Mais peux-tu parler peut-être un peu de l'élément musical qui se trouve avec la colonne vertébrale de ce comique déjanté?
Bien, ça commence. L'histoire commence par. Le début est inspiré d'une légende qui est attribuée à Robert Johnson, qui est un musicien de blues, c'est ça. Puis supposément que Robert Johnson se serait un soir rendu à la croisée des chemins, il aurait vendu son âme au diable en échange de son talent musical. Je sais pas si c'est vrai, mais dans ma bande dessinée, c'est un peu la même histoire, parce que mon personnage, lui, c'est pas tant volontairement, là, c'est genre, il s'effondre parce qu'il est sous à la croisée des chemins un soir de pleine lune, puis il y a une espèce de fantôme esprit qui lui apparaît, puis qui le tease avec, en lui disant je vais prendre ton âme si tu réussis pas ce que je te propose, mais si tu réussis à prendre au studio Delta et enregistrer le CD, tu auras la gloire, la femme, les femmes, l'argent, etc. Donc, on a une alerte.
Donc, c'est ça. C'est une histoire assez rocambolesque. Il y a la trame, le scénario, on dirait quasiment que tu t'es lâché lousse, puis que des fois, ça t'a dû te surprendre toi-même. Il y a deux nièces, à un moment donné, je crois, qui se retrouvent à faire front à des voleuses d'expérience. En tout cas, il y a une sorte d'illucubration, quasiment.
c'est un western, il y a comme des hold-up, il n'y a pas... Le sens de la morale, il n'est pas trop là, là, parce que c'est comme une espèce de jungle où chacun pour soi. puis oui, c'est ça, ça parle un peu, ça part de cette légende-là qui a rapport avec la physique, puis les personnages et les musiciens, donc qui essaient d'aller se rendre au studio Delta dans le nombre de jours assez restreint que le fantôme a imposé pour aller enregistrer leur disque. Mais donc, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu un genre de road novel parce que ces personnages-là rencontrent plein d'embûches tout le long de leur parcours, puis il faut qu'ils essaient de se rendre le plus vite possible en faisant face à tous ces cambrioleurs et ces personnes qui essaient de les voler ou de
donc l'objectif, c'est de joindre un studio à l'autre bout d'un pays qui ressemble étrangement au Far West américain et d'enregistrer donc un album. Alors, j'imagine que tu ne nous livreras pas le punch du troisième album, mais ce troisième album-là, est-ce qu'il est en route tranquillement?
Oui, oui, oui. Là, ça ne va pas encore durer 10 ans. Là. Je travaille fort dessus. Le scénario est pas mal tout écrit. J'ai commencé le découpage, donc ça avance.
Est-ce qu'en même temps, tu travailles sur d'autres projets ou tu es plutôt à te consacrer définitivement sur celui-là pour aboutir? Est-ce que tu as d'autres trucs dans tes carnets qui évoluent tranquillement?
Ben oui, je suis en train de travailler sur ma vie, là, j'ai tellement fini. Tu vas me dire pourquoi tu es en train de faire faute, je le sais, mais je sais pas, on dirait que le confinement, des fois, on choisit pas trop sur quoi on a envie de travailler ou sur quoi on est capable de travailler.
Ce projet
est un livre pour l'édition Parle-Parle qui va s'appeler Occupez-vous des chefs, je pense, qui va être en fait un recueil de tous les fanzines que j'ai fait dans le passé qui ont rapport avec les voyages que j'ai fait pour la bande dessinée, les résidences, les voyages pour les festivals, tout ça. Donc, 28 jours de plus, tu mentionnais tout à l'heure, va être dans ce livre-là. Donc, il va y avoir toutes ces pages-là qui ont été mises en fanzine préalablement, mais il y a aussi. Il va avoir aussi environ 75-80 pages.
Wow! Puis ça va être publié où? Est-ce que tu sais déjà?
Oui, ça va être publié aux éditions Parle-Parle.
Wow! Est-ce que tu en avais fait déjà chez Parle-Parle?
Non, j'ai jamais travaillé avec eux encore.
C'est intéressant parce que c'est une belle place. Il y a quand même, je pense, une communauté d'auteurs, d'autrices qui a définitivement t'as des accointances, en tout cas sur le plan de
la production. Toutes mes amies.
En plus, oui.
Toutes mes amies sont suivies pas mal la vie avec l'éditeur aussi. Donc, je suis vraiment ravie de travailler avec lui. Puis, je suis vraiment contente de faire partie de la famille Parle-Parle, comme ils disent. Fait que je suis bien excitée de ce lieu-là. Puis, je suis surtout aussi excitée d'avoir fait autant de stages inédites. Quand je me suis lancée là-dedans, j'étais comme, je vais faire quelques petits stages inédites pour un peu donner, tu sais, de la viande autour de là pour les gens qui auraient déjà eu des fanzines, par exemple. Puis finalement, j'avais plus de choses que je pensais à raconter.
Fantastique. Ben écoute, je sais pas s'il y a un autre truc que tu veux ajouter en bonus ou on passerait à l'écoute de mon oncle Serge.
Ah, on peut aller écouter mon oncle Serge. Une de mes chansons préférées de lui, qui est plutôt différente, peut-être un peu de ce qu'il fait d'habitude, qui est très dark, mais pas dark, c'est dark comme poétique, qui est très douce comme chanson, très belle. Je l'aime beaucoup, elle s'appelle Rien.
En la réécoutant, je t'avoue que j'avais l'impression d'entendre des cordes, mais c'était de la pédalité. Oui, mais très dense comme sonorité, vraiment très beau. C'est tiré, je pense, du... pas son Merle Blanc d'Amérique, je pense.
C'est le Serge Blanc d'Amérique.
Bref, un mononcle Serge dans toute sa splendeur. Donc, n'hésitez pas, tu as un site, je crois, Iris, peut-être tu peux le mentionner pour que les gens puissent aussi, ceux à qui on avait attiré leur curiosité, d'aller plus loin et d'aller voir ton travail et la pléiade d'albums que tu as produit.
Ben oui, ben les gens peuvent me suivre sur Instagram. Je suis là sous le nom de Boudreau Iris, donc mon nom, mais comme inversé. Puis sinon, mon blog, c'est irisboudreaublog.blogspot.com. Je n'ai pas souvent des choses là, mais il y a quand même beaucoup d'archives et beaucoup de BD à lire là-dessus. Mais surtout mon Instagram, là, je dirais.
Fantastique. Ben, merci beaucoup, Iris, de ta présence, de tes propositions musicales. Donc, on écoute sans plus tarder la pièce Rien de mon oncle Serge. Et merci beaucoup, Tamara, de nous accueillir sur Le lendemain de la veille. C'est CKUT 90.3 FM. Olé, olé.
Merci.
Chez le camionneur qui broute son sandwich dans le casse-croûte à la sortie d'autoroute, rien. Chez le déneigeur aussi, qui travaille toute la nuit à déblayer les sorties, rien. Chez le gars qui départage les bouteilles et les canages dans l'usine de recyclage, rien, rien, rien. Chez le camelot qui se lève tôt, rien. Chez le comptable à son bureau, rien. chez le plombier qui se penche la tête dans la cuvette blanche pour y réparer la clanche, rien. Chez le coureur olympique, chez le vieillard arthritique, chez l'expert en mécanique, rien. Chez la danseuse de ballet, la fille qui est au guichet et celle qui déchire les billets. Chez la bibliothécaire qui remet le dictionnaire sur la troisième étagère, rien, rien, rien. Dans la maison qui sommeille, rien. Chez le gardien de nuit qui veille, rien. Et la gorge qui se noue quand on pense qu'au fond de nous et qu'au bout de tout il n'y a rien.
Avec sa chronique hebdomadaire.
Puis, on va parler d'argent, de flouze, de berguelons-là, de cash, quoi, si on peut dire en bon québécois. Mm-hmm. Alors, on va faire ça en bande dessinée et en roman graphique. Le premier en est un pour tous et toutes. Il s'agit de Fric Frac, parcours d'un billet de banque. C'est publié dans une collection que j'affectionne beaucoup, qui s'appelle Griffe. Sans le E, G-R-I-F-F, et c'est publié chez l'éditeur Isatis. Isatis, pour ceux qui l'ignorent, il s'agit d'un genre de légende, et l'Isatis, c'est un renard bleu. Alors voilà un petit éditeur québécois qui fait des formats carrés avec la collection Griffe, qui sont souvent des documentaires graphiques destinés à tout âge. Fric-frac, c'est bien simple. André Marois, qui est l'auteur du texte, et Pauline Steve, S-T-I-V-E, qui est la dessinatrice, ont choisi de travailler avec un billet de 50 $, le fameux billet rouge canadien, et qui passe de main en main et qui nous montre que pour certains, 50 $, c'est du petit change, et pour d'autres, c'est une montagne d'argent. Et aussi, ça nous fait prendre conscience que l'argent, éventuellement, disparaîtrait peut-être. En tout cas, l'argent en papier, bien sûr, pas l'argent virtuel. L'argent, c'est quasi le moteur du monde. C'est quasiment la nouvelle religion. Alors voilà, d'ailleurs, pendant le temps des fêtes, de parler d'argent, c'est quasiment que monnaie courante, si vous passez le mauvais jeu de mots. Fric-frac, donc, nous amène au comptoir caisse d'une caissière dans une épicerie qui est au salaire minimum pour payer ses études d'hygiéniste dentaire. Alors, quand elle tient entre les mains un billet de 50 $ qui et qu'elle scanne les articles pendant plusieurs heures pour gagner une somme analogue. Alors voilà, et quand elle voit quelqu'un qui en a une liasse pleine dans son porte-monnaie, eh bien, elle se dit que peut-être que c'est mon revenu mensuel que lui a dans sa poche. À l'inverse, on a ici Jean-Guy, qui lui adore sentir la présence des billets. Les auteurs, autrices de ce livre, Fric-Frac, en profitent pour nous parler dans un petit encadré que les patrons des grandes compagnies gagnent en moyenne 105 fois plus que les travailleurs canadiens. 20 ans plus tard, c'est pire. Le revenu des patrons les mieux rémunérés au Canada est 200 fois supérieur à ceux des employés moyens. Alors voilà, c'est une façon, donc, en suivant l'itinéraire, le parcours de ce 50$-là, d'en apprendre, entre autres, sur la question des endorphines dans les actes de générosité, parce que le billet va finir, entre autres, entre les mains d'itinérants. On ne sait pas exactement combien de billets de banque sont imprimés chaque année par les différents pays, ni non plus la quantité qui est détruite. On sait que la durée de vie d'un billet de 50$ canadien, à peu près 5 années. Donc, dans ce livre-là, on en apprend quand même pas mal. Et j'ai bien apprécié de réentendre parler des paradis fiscaux de façon simple et directe, pas de façon alambiquée, parce que c'est une des explications de ces 50$-là qui se promènent, ou encore même des millions. Fric-Frac, un très beau livre, un très beau roman graphique, très simple, mais bourré d'informations, avec quelques pages de suggestions pour aller plus loin à la toute fin. De André Marois et Pauline Steve, Fric-Frac, le parcours d'un billet de banque, publié aux éditions de l'ISATIS. Dans un autre registre, dans le monde du travail, qui permet justement de générer un salaire, qui permet de vivre. On dit parfois « travailler pour vivre », mais souvent les gens pourraient plutôt dire « vivre pour travailler » tellement cette activité-là est prenante et est envahissante. Le livre s'intitule « Stop Work ». C'est sous-titré « Les joies de l'entreprise moderne ». C'est publié chez Dargo. Et les auteurs de ce roman graphique sont Jackie Schwartzman et Morgan Navarro. C'est un livre avec un tel titre, Stop Work. Je pensais, au départ, bien naïvement, que c'est un livre qui prônait l'abandon du travail, pur et simple. J'avoue que ça me souriait énormément et ça me correspondait même. Sauf que c'est pas de ça qu'il s'agit, bien que ça ait autant d'humour puis autant de verve. Le concept, donc, de Stop Work, c'est un concept qui est au niveau des grandes entreprises. Ça permet à tout employé, quel que soit son niveau, de suspendre son travail lorsqu'une tâche ou une situation dangereuse semble imminente. C'est incroyable. C'est quasiment un mécanisme pour court-circuiter le processus du travail. La façon dont les auteurs ont choisi d'aborder ce sujet-là, c'est avec un dernier des Mohicans, Fabrice Couturier, un personnage d'acheteur et cadre à l'ancienne, un fief imbécile en passant, et est-ce qu'il peut trouver encore sa place dans un monde d'entreprise moderne sans se faire des nœuds au cerveau? C'est un peu ça la donne. Alors voilà, la question donc, c'est qu'il y a aussi des personnes dans l'entreprise qui visent à ce qu'on ne se fasse pas attaquer par une brocheuse ou qu'on ne descende pas les escaliers sans se casser le sacrum. Alors voilà, c'est environnement, hygiène, sécurité, avec un humour noir, bien entendu. Le livre est dessiné de façon vraiment vive et la bichromie en bleu poudre et en jaune pipi, si on peut, c'est à peu près ça la couleur, quoi, nous donne un dessin très proche du dessin animé, très simple, mais avec un revirement de situation qui ressemble à une crêpe qu'on lance et qu'on rattrape dans le poêlon. Très drôle,
très moderne aussi, avec une espèce de clash des générations. Stop Work, les joies de l'entreprise moderne, publié chez Dargaud par le tandem d'auteurs qu'est Jackie Schwartzman et Morgan Navarro. Un dernier, celui-là est typiquement québécois. Il s'agit d'un criminel vraiment canadien-français, dans le sens le plus plat du terme. Il s'agit d'un criminel nommé Richard Blass, B-L-A-S-S. C'est un personnage qui a bel et bien existé. Le titre de cette BD-là, c'est tout simplement son nom de famille, Blass, le chat sur un toit brûlant. C'est publié chez Glénat. Glénat, qui est un éditeur français, mais qui a aussi des bureaux à Montréal, donc c'est Glénat Québec. Les auteurs sont Michel Villoux, qui est au scénario, et Jocelyn Bonnier, qui est au dessin. Alors voilà, Michel Villoux, au scénario, nous a donné ces dernières années plusieurs livres avec moteur l'histoire des faits historiques, des faits divers ou des personnages judiciaires. C'est un peu sa spécialité désormais. Michel Villoux est bien connu aussi pour ses savoirs encyclopédiques sur la bande dessinée au Québec. Il a publié plusieurs bouquins sur le sujet. Quant à Bonnier, Jocelyn Bonnier, à ma connaissance, c'est son tout premier livre professionnel, très bien illustré en noir, blanc et gris. Alors, on a des images léchées, quasiment télévisuelles. On est dans le domaine ici du crime organisé. Blass, dans les années 60, entre 65 et 70, est un ami de Nesrin, braqueur de banque et tueur. Alors, Richard Blass, lui, pour sa part, a été soupçonné de pas moins de 21 meurtres et a réalisé 3 évasions spectaculaires. Et il a été bien connu, en tout cas, les journaux à potin de la Loupolis titraient souvent en première page soit ses évasions ou soit ses espèces d'étonnement. C'était quasiment une lutte identitaire dans la criminalité pour détenir finalement un territoire qui est le centre de Montréal. Blass, c'est un personnage qui est peut-être un peu fanfaron, sinon fendasse. On a, dès le début de ce roman graphique, 2 pages de préface signées par un bonhomme qui s'appelle Claude Poirier, qui a été journaliste au Journal de Montréal et à Allo Police, qui était devenu, entre guillemets, un ami de Richard Blass, puisque celui-ci, lui faisant confiance plus qu'à d'autres médias, envoyait à l'occasion des communiqués ou des démentis sur des mots ou en tout cas des faits qui couraient à son égard. Richard Blass, donc, un personnage peut-être peu glorieux, mais c'est quand même une autre époque maintenant, avec tous les systèmes de surveillance qui existent. De tels vols de banque seraient virtuellement impossibles et passeraient pour de l'histoire ancienne. Donc, déjà pour ça, c'est un livre qui est fascinant à lire. C'est un livre qui est peut-être peu édifiant parce que le monde du crime comme ça reflète essentiellement la vie des plus riches en essayant donc de mener leur train de vie. On parlait tantôt avec Frick Frac des différences abyssales qui existent entre les petits travailleurs, travailleuses et les grosses patronnes et patrons. Et bien voilà, on est en plein dedans avec la question de la criminalité. Certaines vont choisir donc de se servir à même le plat de service, si on peut dire. Blass, le chat sur un toit brûlant, par Villoux et Bonnier, publié chez Glénat. Pour rester dans les tonalités, je vous ai choisi à la main une pièce qui s'intitule « La banqueroute ».
C'est dû, bien sûr, à la bottine souriante. C'est tiré de l'anthologie numéro 2. Alors voilà, vous êtes à CKUT 90.3 FM, en toute anarchie et bonheur. Bonjour.
Merci beaucoup, Ramon.
muerto mi abuelo,
ay, ay, ay.
Ya se ha muerto mi abuelo,
ay, ay, ay.
Tomando masato,
ay, ay, ay.
Tomando masato,
ay, ay, ay.
COVID-19 est une situation sérieuse. Il faut continuer d'appliquer toutes les mesures de santé publique. Suivez les consignes locales sur les rassemblements, pratiquez la distanciation physique, lavez vos mains, portez un masque et téléchargez l'appli Alerte COVID. Si vous avez des symptômes, même légers, restez à la maison. Protégeons-nous les uns les autres. Détails au canada.ca/le coronavirus ou au 1-833-784-4397. Un message du gouvernement du Canada.
Pour lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout. Quand on a des symptômes, on doit s'isoler. Quand on a passé un test, on doit s'isoler. Quand le résultat est positif, on doit s'isoler. Quand on revient de voyage, on doit s'isoler. Et si on a été en contact avec un cas confirmé, on doit s'isoler. S'isoler, c'est sérieux. S'il vous plaît, faites-le. Information sur québec.ca/isolement. Un message du gouvernement du Québec.
From New York, this is Democracy Now!
President Trump, the people of Israel and the state of Israel will be forever indebted to you for your magnificent efforts on our behalf. I want to thank, too, the King of Morocco, King Mohammed VI, for taking this historic decision to bring a historic peace between us.
In a deal brokered by the Trump administration, Morocco and Israel have agreed to establish diplomatic relations. At the same time, the United States has agreed to become the first country in the world to recognize Morocco's sovereignty over occupied Western Sahara, what many consider to be Africa's last colony. Morocco has occupied much of the resource-rich territory since 1975 in defiance of the United Nations and the international community. We'll get a response from leading Palestinian and Sahrawi figures. Then we'll look at Joe Biden's pick to head the Pentagon, retired Army General Lloyd Austin, who now serves on the board of Raytheon.
America is strongest when it works with its allies.
And over the years, I've worked hand in hand with our diplomatic colleagues and partners around the globe and witnessed firsthand what we're able to accomplish together.
If confirmed, General Austin will become the nation's first black defense secretary, but it remains unclear if he'll be able to secure a needed waiver from Congress due to laws designed to preserve the civilian control of the military. All that and more coming up. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The Quarantine Report. I'm Amy Goodman. An advisory committee of U.S. vaccine experts voted Thursday to recommend emergency use authorization of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine, with the Food and Drug Administration poised to issue its approval Saturday. Once that comes, some 2.9 million doses will be shipped to sites across the United States, with the initial limited supply of the vaccine rationed for healthcare workers and nursing home residents. On Thursday, the U.S. recorded another staggering toll from COVID-19, with over 224,000 new infections and nearly 3,000 deaths. Robert Redford, director of the Centers for Disease Control and Prevention, warned for the next 60 to 90 days, the U.S. will likely see more COVID-19 deaths per day than the number of people killed in the September 11th attacks.
It's also very sobering to realize that in the United States today, that COVID-19 now is the leading cause of death, surpassing heart disease.
That was Robert Redfield. Meanwhile,